Alors ce soir, nous allons lire un texte pour parler de l'importance d'aimer, parce que nous avons vu des choses pratiques dimanche matin, mais ce soir, nous allons voir aussi quelque chose de très pratique qui fait partie des choses principales dans le cœur du Seigneur. Alors on va partir d'une expérience qui a été faite après la résurrection, où les apôtres étaient un petit peu désœuvrés par rapport à ce qui se passait. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Donc ils se retrouvent désœuvrés, ils se retrouvent à quelques apôtres au bord de la mer avec Pierre. Jean chapitre 21, verset 1er. Il va y avoir plusieurs choses qui sont dites et qui vont nous introduire dans ce sujet que nous devons aborder avec sérieux. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit que d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, c'était quoi ? C'était le plus grand commandement. Le plus grand commandement, c'est le premier, c'est d'aimer Dieu. Et le deuxième, c'est... Le second commandement, c'est quoi ? D'aimer son prochain, comme soi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc ce soir, on va faire un petit bilan par rapport à cette affaire d'aimer son prochain. Donc, un jour, c'était la troisième fois, je crois que c'est écrit, Jean chapitre 21, verset 1er. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. C'était la troisième fois, après la résurrection. Sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée. Non, c'est qui les fils de Zébédée ? Oui, Jacques et Jean, je vous savais. Et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc il y avait combien de disciples, des apôtres ? Comment ils étaient ? Ah, je vous... Vous en voyez combien, là ? 12 ? Il y en a un qui était parti, déjà. 7 ? 7. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire le nom des 6 qui manquent ? Hein ? Eh oui, c'est comme ça qu'il faut travailler. Alors, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » C'est la preuve qu'ils étaient désœuvrés, puisque parmi ce groupe de 7, certains n'étaient pas des pêcheurs. Ils sortirent et montirent dans la barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, alors ça ne veut pas dire qu'il était entièrement nu, bien sûr, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 100 mètres. Lorsqu'ils furent redescendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, vous savez pourquoi Jésus lui a posé trois fois la question ? Mais oui, trois fois Pierre avait renié Jésus. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. Amen. » Donc nous avons une histoire qui s'est passée après la résurrection. Il y a bien sûr de l'affolement. D'ailleurs, ils sont là, ils vont pêcher, ah ben on va avec toi. Ils sont que 7. alors qu'ils étaient 11, puisqu'il y en avait, un qui s'était suicidé. Donc il restait 11, certains n'étaient pas là. Donc Jésus va vers eux, c'est la troisième fois qu'il va vers eux, et qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoit. Parce que nous avons un Dieu qui pourvoit, alléluia. Il faut comprendre les choses. Lorsque Jésus vient vers nous, il y a quelque chose. D'un côté, vous voyez, il va s'adresser à ses 7, il va leur donner à manger parce qu'ils ont besoin. Et je ne sais pas où vous en êtes, ce que vous avez besoin ce soir, mais ne vous imaginez pas que si le Seigneur vient vers nous, c'est pour faire autre chose que de pourvoir à nos besoins. Et de notre côté, il n'y a pas que les besoins matériels, il y a un homme qui s'est loupé, vraiment loupé. C'est l'apôtre Pierre. D'ailleurs, quand celui qui aimait le plus Jésus a reconnu, malgré le fait qu'il soit éloigné du rivage, que c'était le Seigneur, et quand Jean va dire à Pierre, mais c'est le Seigneur. Vous avez vu que Pierre, il n'attend pas que la barque arrive à terre. De lui-même, il prend la décision de rejoindre le plus tôt possible le Seigneur. Bon, ça n'a pas servi à grand-chose parce que, de toute façon, Jésus n'a été vers Pierre qu'après avoir mangé, parce qu'ils avaient besoin de manger. Et je crois que Dieu s'occupe de nos besoins matériels, physiques, et Dieu s'occupe de nos besoins spirituels. Et il fallait ce besoin, il y avait besoin d'un entretien. Est-ce que vous acceptez que le Seigneur provoque un entretien avec vous? Parce qu'en fin de compte, il y a des choses, vous savez, c'était bien, Pierre et on va pêcher, ils étaient désœuvrés. Vous vous rendez compte, ils ne savaient plus quoi faire. Mais il n'y avait pas que le besoin matériel, il y avait un autre problème. Il fallait absolument faire le point. Il fallait absolument que Jésus pose à Pierre une question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est une question que le Seigneur peut nous poser. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu peut nous poser certaines questions? Tiens donc, est-ce que ce soir, le Seigneur peut me poser cette question? Est-ce que tu m'aimes? Alors si je vous pose la question, est-ce que vous aimez Dieu? Et que vous me répondez, oui, bon, c'est bon. Est-ce que vous aimez Dieu? Bon, si je vous pose la question 20 fois, vous allez me dire, bon, mais quand même, quand ça vient du Seigneur, est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Pierre a été attristé, parce que bon, la troisième fois, je pense que Pierre était un homme intelligent, et il a dû comprendre la raison de cette question. Mais il en avait besoin. Il en avait besoin, pourquoi? Eh bien parce que Dieu voulait le bénir. Dieu voulait qu'il reparte, et que Dieu ne voulait pas qu'il se traîne cette affaire toute sa vie. Il y a des gens, ils se traînent des problèmes toute leur vie. Ils n'arrivent pas à saisir le pardon de Dieu, ils n'arrivent pas à se pardonner, parce qu'ils n'ont pas eu cet entretien. Et ça crée des drames, parce qu'il y a des gens, vous les voyez, 10 ans après, ils sont tout le temps dans le remords, dans le chagrin, et lorsque le Seigneur vient avec ses questions intelligentes, ce n'est pas pour nous coincer, mais c'est parce que Pierre, il fallait qu'il reparte. D'ailleurs, qui c'est qui va prêcher quelques jours après, 50 jours après, même pas, à la Pentecôte? Qui c'est qui prêche? Donc, le problème était réglé. Il y a des gens, ils ont fait une erreur, je pense à des pasteurs qui ont fait des erreurs, ça a été terminé. On ne les a plus jamais réentendus. Plus jamais. Parce que lorsque le Seigneur s'est approché d'eux, lorsque le Seigneur a voulu cet entretien, ils n'y ont pas cru. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais vous savez, chaque question, j'en ai parlé dimanche après-midi, quand Jésus a dit à Thomas, juste avant, quelques jours avant, « Regarde mes mains », c'était important. Et il y avait un message. Jésus dit quelque chose, c'est toujours pour nous aider. Et Thomas est reparti. L'histoire nous apprend qu'il est devenu un des grands apôtres de l'Inde. Et vous savez qu'en Inde, il y a eu des réveils extraordinaires, et tout le monde met ça sur le dos de Thomas, qui a été un instrument extraordinaire, parce que la question ou la remarque de Jésus l'a amené à prendre cette victoire. Et Pierre avait besoin d'une victoire. Et gloire à Dieu, ce soir, c'est un peu la même chose. Peut-être vous avez besoin d'une victoire. Alléluia. Et Dieu veut vous la donner. Voilà, pour étudier la Bible, dire, tiens, c'est intéressant. Ah, il y avait 7 apôtres, c'est bien. C'est... Ah, la question qui nous appartient, quels sont les 6 qui manquent? Alors, on peut les étudier. Mais, est-ce que tu m'aimes? Voilà la question qui a déclenché la restauration, la réhabilitation dans le cœur de cet homme qui aimait Dieu. Mais bon, il ne se connaissait pas trop lui-même. Il avait confiance en lui. Il vaut mieux avoir confiance en Dieu que confiance en soi-même, croyez-moi. Tu aimeras ton prochain. Voilà, ce sont des choses pratiques. Oh, si tu étais attentif. Parce que bon, c'est bien de chanter plein feu sur la Bible, son message rend heureux. Il y a des chrétiens, ils ne sont pas heureux. Soyez, vous le savez. Il y a des chrétiens, ils sont autant malheureux qu'un païen. Je le sais. Alors quelqu'un pourrait dire, oui, ce cœur, c'est bien joli, mais fais-moi, je... Eh bien oui, parce qu'on n'a pas eu cet entretien avec le Seigneur, on n'a pas eu cette restauration que Dieu voulait. Et je peux vous dire que l'apôtre Pierre, c'est vraiment devenu quelqu'un, suite à une question, ou trois questions. Quand vous regardez les évangiles, vous vous rendez compte que Jésus n'a pas fait de grands discours sur la théologie. L'expiation, etc. Il y a des sujets quand même qui sont importants. Est-ce que l'expiation, c'est un grand sujet? Est-ce que la mort de Jésus au calvaire, c'est un grand sujet? Ben oui. Mais vous remarquerez que Jésus n'en parle pas souvent. Par contre, vous avez vu le nombre de fois où le Seigneur parle sur le comportement que nous devons avoir les uns vis-à-vis des autres. Est-ce que Jésus a souvent parlé de l'importance que nous devions nous aimer les uns les autres? Est-ce qu'il en a souvent parlé? C'est impressionnant. Le nombre de fois où il en a parlé. De l'importance de porter du fruit, par rapport à ce sujet justement. C'est vrai que quand vous lisez certains livres, comme le Lévitique par exemple, vous avez tout un livre sur la sainteté, tout un livre. Mais quand vous lisez les évangiles, vous voyez vraiment que ce qui ressort dans le cœur du Seigneur, c'est est-ce que je porte du fruit? Voilà, est-ce que j'aime mon frère? Est-ce que j'aime ma sœur? N'oubliez pas, Jésus ajoute d'aimer son prochain de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, est-ce que c'est important d'aimer Dieu? C'est important d'aimer Dieu. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est tu aimeras ton prochain. Mais qui c'est mon prochain? Parce qu'il y en a qui sont forts. Vous vous rappelez dans la parabole du bon samaritain, le sacrificateur qui s'approche et qui pose des questions au Seigneur, qui est mon prochain? Qui c'est votre prochain? Actuellement, c'est qui? Actuellement, oui, ce soir... Actuellement, c'est... Michael, est-ce que vous aimez votre prochain? Attention, oui. Est-ce que vous aimez votre prochain? Madame Gou, est-ce que vous aimez la personne qui est devant vous? Etc. Bon, le prochain. Mais le prochain, c'est qui? C'est tous les gens que nous côtoyons. Vous en avez côtoyé aujourd'hui. Qui vous avez côtoyé? Vous avez côtoyé un voisin? Un patron? Un proche? Quelqu'un de la famille, etc. Tu aimeras ton prochain, toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin. C'est pour ça que dans la parabole du bon samaritain, c'est le blessé qui est là au bord du chemin. Jésus prend cette parabole et il explique que c'est quelqu'un qui est là au bord du chemin. Ça arrive. Moi, ce mail que j'ai reçu tout à l'heure de ce gars qui est en braque, mais ça deviendra notre prochain. Vous voyez, il va falloir l'aider. Il va falloir l'aider et il faut le faire. Il faut le faire comme il faut. Mon prochain, c'est vrai, c'est celui qui est à côté de moi. À l'église, mon prochain, c'est vrai que c'est celui qui est à côté de moi. Et je veux l'aimer. Et comment il est blanc, il est noir, il est riche, il est pauvre. Vous préférez les riches ou les pauvres? Alors, tiens donc, c'est un sujet ça. Est-ce que c'est un sujet, la richesse et la pauvreté? Est-ce que ça n'a pas divisé les églises? Non mais je n'ai pas le temps d'en parler, ça serait trop long. Vous savez, il y a des églises qui ont fait du social plus que du spirituel. Et c'était l'évangile pour les pauvres. D'ailleurs, il y a des églises en France où on s'est occupé que de la pauvreté. Et les riches, ils sont riches, c'est leur problème. Mais regardez ce proverbe avec moi. Vous savez, on va voir pendant les dimanches à venir des choses vraiment pratiques. Moi, j'ai entendu tout un tas de choses parmi les chrétiens, par rapport aux riches, par rapport aux pauvres. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Proverbe 22, verset 2. Vous savez, ce sont des choses qu'il faut lire et qu'il faut méditer. Ça a été écrit, on en a besoin. Alors, Proverbe chapitre 22, verset 2. Comment vous avez dans votre Bible? Vous avez? Ça y est, vous avez trouvé? Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres. Il y a des gens, ils sont pauvres. C'est vrai qu'il y a des gens, ils sont pauvres parce qu'ils l'ont cherché. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Est-ce que c'est bien de ne pas vouloir travailler? Hein? C'est écrit, il y a plein de textes. Ce n'est pas le thème de ce soir. Il y a des gens qui sont riches parce qu'ils ont bossé aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui bossent honnêtement? Oui,
Il y a des gens qui travaillent, qui se sont enrichis. Eh bien, c'est une bénédiction aussi. De toute façon, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, on doit aimer son prochain, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Ça peut arriver qu'un chrétien soit pauvre, ça peut arriver qu'un chrétien soit riche. Mais nous devons aimer l'un comme l'autre. Parce que c'est facile de juger. C'est facile pour un pauvre de juger un riche. Oui ou non? Oui, il est riche, et comment il a fait? Et c'est facile pour un riche de mépriser un pauvre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un sujet important. On pourrait l'aborder d'une manière plus prolongée. On le fera peut-être dans un autre contexte. Mais nous sommes dans un monde qui ne comprend pas ces choses. Quand je vois, par exemple, comment le communisme, je ne veux pas critiquer un parti politique, a essayé de niveler cette affaire. Quand je vois où ils en sont arrivés, ce qu'ils ont fait dans les pays de l'Est, ça arrivait que Lénine a fait raser 80 000 églises. Quand on voit ce qui s'est passé en Russie avec le communisme, au nom de cette égalité, non, il y a des choses, si on ne les comprend pas, ne les jugeons pas, mes frères et sœurs, ne jugeons pas ce que nous ne comprenons pas. C'est vrai que nous sommes tous égaux, mais je dois aimer le pauvre et je dois aimer le riche. Est-ce que c'est facile d'aimer les pauvres? Est-ce que c'est facile d'aimer les riches? Franchement, c'est des sujets, c'est des questions. En tous les cas, je dois aimer mon prochain, quel qu'il soit. Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Il y a des pentecôtistes qui jugent les apostoliques, des baptistes qui jugent les libristes. Est-ce que vous l'avez entendu ça déjà? Est-ce que vous l'avez entendu? Alors on peut comparer quand même, il y a des choses qu'on peut comparer, mais sans mépriser. Sans mépriser, tiens, les protestants, ils ne font pas d'évangélisation. Nous, les pentecôtistes, on faisait de l'évangélisation. Et il y a des gens qui se sont divisés à cause de ça. Et ça amène beaucoup de sujets. On n'a pas les mêmes opinions. En tout cas, une chose est sûre. Celui qui aime son prochain, c'est celui qui apprend à vivre l'évangile. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons vivre. Tu aimeras ton prochain. Mon voisin, il est athée. Est-ce que je dois l'aimer quand même? Mon voisin, c'est un blasphémateur. Chaque fois qu'il parle, c'est pour jurer. Vous n'avez pas connu des gens? Chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, c'est pénible comme tout, c'est pour jurer. Vous n'en connaissez pas des gens comme ça? Alors, est-ce qu'il faut aimer un blasphémateur? Est-ce que Paul était un blasphémateur? Est-ce que Paul, quand il parle de lui, dit « moi, un blasphémateur » Oui, il était blasphémateur. Bon, il a changé. Alors, si Dieu dit que c'est le deuxième commandement le plus important, c'est parce qu'il faut qu'on y réfléchisse, ou qu'on y re-réfléchisse, ou qu'on y re-réfléchisse encore une fois, parce que c'est un point qui permet la restauration. Regardez Pierre, Jésus, est-ce que Jésus aurait pu s'approcher de Pierre et lui dire, écoute Pierre, maintenant qu'on est tous les deux seuls, écoute, je vais t'expliquer. T'as pas honte? Est-ce que Jésus aurait pu lui faire un sermon en 3 exemplaires? Est-ce que Jésus aurait pu lui faire un sermon? Bien, bien fait, quoi. Est-ce qu'il aurait pu? Mais t'as pas honte. Mais tu te rends compte? T'es un pauvre type. Non, juste une question. Est-ce que tu m'aimes? Et ce soir, nous sommes sous le regard de Dieu. Nous devons nous poser la question. Oui, j'aime Dieu. Seigneur, je t'aime, c'est vrai. Mais j'ai un problème avec le prochain et il faut que je règle cette affaire. Mon voisin qui est blasphémateur, il faut que j'apprenne à l'aimer. Dernièrement, il y a eu une voisinade. Vous savez ce que c'est une voisinade? C'est les voisins qui s'invitent entre eux. Eh bien, moi, je n'y ai pas été. Ça fait 2 ans que je n'y vais pas. Et cet après-midi, et ce matin, en préparant cette prédication, je me suis senti repris. Parce qu'ils blaguent. Vous savez, les gens, quand ils ont bu un coup, bon, ce n'est pas toujours évident. Et en préparant cette prédication, je me suis dit, mais quand même, il faut savoir aussi parfois... y aller, montrer de l'amour et de la bienveillance, vous voyez. C'est important d'avoir le discernement. Seigneur, donne-moi du discernement pour que je sache ce que je dois faire. Parce que ce n'est pas en étant légaliste que le voisin, il va voir la miséricorde de Dieu dans ma vie. Je crois que les gens, ils ont besoin de voir de la bienveillance, oui ou non? Et ce sont des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Bien sûr que nous sommes affligés quand vous discutez avec les pécheurs, quand vous voyez qu'ils tolèrent l'homosexualité, qu'ils tolèrent les abominations, qu'ils se glorifient même. Je vous parle l'autre jour du Parlement en Islande qui a voté une loi sur la dépénalisation du blasphème. Mais c'est pathétique, vraiment.
franchement, ils n'avaient rien à faire pour arriver à faire des choses pareilles. Mais le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. Voilà, mon voisin, c'est Dieu qui l'a mis à côté de moi. Mon patron, ma patronne, les collègues, eh oui, Dieu les a mis à côté de moi. Si vous me demandez d'aimer mon voisin, j'arrive tout juste à aimer les personnes de mon église. Tiens-nous, est-ce que ça peut arriver, ça? Tiens-nous, est-ce que ça peut arriver qu'on a du mal à aimer les personnes de la même église dans laquelle on est? Vous allez me dire, oh, monsieur Gola, vous exagérez un peu. Est-ce que ça peut arriver? Allez, soyez honnêtes. Est-ce que ça peut arriver qu'on puisse avoir du mal à aimer les gens de sa propre église? Ben oui, quelqu'un pourra même aller plus loin et dire, mais moi, monsieur, vous n'aimez pas les gens de l'église, c'est les gens de ma famille. Il y a des gens qui ont du mal à aimer les gens, c'est vrai ou c'est pas vrai? De leur propre famille. Moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit, vous savez, mon mari, ma femme, ou j'aime pas mes enfants, un chrétien, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que quand même, c'est pas une grâce, une famille, quand même. Alors moi, je ne veux pas juger. Mais quand même, c'est des révélateurs. C'est des révélateurs qui devraient nous faire réagir. Et dire, mais quand même, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? La Bible, elle dit dans 1 Timothée au chapitre 5, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, qu'est-ce qu'il est? Il est comment? Il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Et ce n'est pas pour nous traumatiser. Mais quand même, si je n'aime pas les membres de ma famille, si je n'aime pas les frères dans mon église, si j'ai du mal, Seigneur, mais interpelle-moi. Alors il y a des gens qui disent, oui, mais vous savez, bon, j'aime pas peut-être tout le monde, mais je fais du bien. Dès que l'occasion se présente de donner à quelqu'un, je le fais. Moi, vous savez, je donne pour des associations. Quand quelqu'un est malade, je vais le visiter pour lui donner des médicaments, s'il ne peut pas aller les acheter. Mais le deuxième commandement, c'est pas est-ce que tu aides. Le premier et le deuxième commandement, c'est est-ce que tu aimes. Parce qu'on peut donner sans aimer. Est-ce que vous comprenez? On peut donner certaines choses. On peut faire des choses sans aimer. Bien sûr qu'il faut donner. Et qu'il faut le faire absolument. C'est pas possible. Un chrétien qui ne se donne pas et qui ne donne pas, c'est grave. Mais on peut faire ces choses sans aimer. Vous savez, ça vous arrive des fois de donner une pièce à quelqu'un qui fait la manche? Est-ce que ça vous arrive des fois de donner une pièce? Ça vous arrive? Est-ce qu'on peut le faire par pitié, sans aimer la personne? Oui. Moi, souvent, je donne la pièce, je me dis, mais comment tu la donnes? Parce que des fois, je me suis rendu compte que j'avais donné une pièce, je n'ai même pas regardé le gars. Je me suis senti repris. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en préparant cette prédication, je pensais à ce il y a quelques mois, j'avais donné une pièce à un gars, je l'ai tout juste regardé. Ouais, c'est pas bien. Alors c'est sûr qu'on est dans un monde où l'amour va diminuer. Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est prophétisé? Qu'à cause de l'iniquité? C'est une prophétie en plus. C'est incontournable. L'amour du plus grand nombre de chrétiens va diminuer. Et de notre côté, la prière du Seigneur par l'apôtre Paul, il dit, mais je prie pour que votre amour augmente de plus en plus. Alors on va céder dans quel côté? Est-ce qu'on va tomber dans l'apostasie? Ou est-ce qu'on va avancer dans cette prière? Oui, je veux que mon amour augmente de plus en plus. Je veux continuer à aimer mon prochain. Même s'il ne m'aime pas, je veux continuer à plaire à Dieu de cette façon. Je veux prier pour lui. Eh bien, je vais prier pour mon patron. J'en ai parlé déjà. J'en ai parlé dimanche. Le Seigneur Jésus, est-ce qu'il n'a pas été rejeté, méprisé, insulté, etc.? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à aimer. Vous connaissez la première parole de Jésus sur la croix? C'est quoi la première parole de Jésus sur les sept? Père, pardonne-le. Vous vous rendez compte tout ce qu'il venait de vivre, les 24, rien que les 24 dernières heures. La première parole, n'oubliez pas, on venait de le crucifier. Et la première parole qu'il c'est une prière en plus. C'est même pas une parole, c'est une prière. Il demande à Dieu, en plus c'est pas, il dit pas je les pardonne. Il demande à Dieu de les pardonner, ça veut dire que lui il avait déjà pardonné. Père, pardonne-leur. Il a continué à aimer. Il est notre exemple. Pourquoi nous sommes devenus des chrétiens? Au fait, pourquoi nous sommes devenus des chrétiens?
Nous étions catholiques ou protestants, nous étions athées, nous étions je ne sais rien, et nous sommes devenus chrétiens. Pourquoi nous sommes devenus chrétiens? Pour changer de religion? Ah non, moi je suis catholique, ça ne me plaît pas, on prie les morts, on prie la Vierge, il y a plein de trucs qui ne sont pas dans la Bible, donc je veux changer de religion. On n'a pas, on n'est pas devenu chrétien pour changer de religion. On est devenu chrétien parce qu'on aime Jésus et qu'on veut le suivre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Jésus nous dit, mais il te faut aimer. Et c'est une question d'honnêteté. Le Seigneur nous demande d'être honnête. Pierre, il était là tout seul, Jésus ne l'a pas repris devant les sept, ils étaient sept. Il a pris à part. Je pense qu'il y a des entretiens qu'il faut avoir dans la solitude, seul à seul, avec Dieu. Mais nous devrions quand même nous poser la question, est-ce que vraiment j'aime? Vous savez, moi souvent je me suis posé des questions par rapport à mes prédications, si c'était pas trop intellectuel ou trop théologique. Vous savez, le deuxième commandement, il est là. Alors je veux apprendre à aimer. C'est pas facile. Oui, est-ce que c'est facile d'aimer? Tiendo, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile d'aimer? Non, c'est pas facile. Comment obéir à ce commandement? Puisque c'est un commandement. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Comment aimer? Mais peut-être en commençant à prier. Quand il est dit, notre Père, que ta volonté soit faite. Vous connaissez cette prière? Vous la connaissez? Notre Père qui est aux cieux. Commencez après. Vous la connaissez? Commencez. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Dieu l'a dit. Est-ce que ça fait partie de la volonté d'aimer son prochain? Alors Seigneur, c'est ta volonté. Ta volonté. Et quand moi, vous savez, ça fait 32 ans que je suis pasteur. Au début, je n'ai pas fait attention. Mais quand j'entends un chrétien qui commence à dire « Oh, celui-là, je ne peux pas le saquer, celui-là, il m'énerve », eh bien, je peux vous dire que c'est les premiers éléments de la vie rétrograde. Parce que je crois qu'un chrétien, il s'applique à aimer, à prier. « Seigneur, c'est ta volonté, je ne le négocierai pas. » La parole de Dieu, ça devient la volonté du chrétien. Le chrétien, il n'aime pas pour les avantages. Je me souviens un jour, cette femme qui disait, Seigneur, tu vois mon mari, il faut qu'il se convertisse. Il faut qu'il se convertisse, mon mari. Alors le pasteur, il a été la voir et il lui a dit, mais pourquoi vous voulez que votre mari se convertisse? Parce que j'en ai marre de venir à pied. S'il se convertit, j'aurai un chauffeur pour m'amener à la réunion. Et la femme, elle priait pas pour le salut. Elle a dit, vous priez pas pour le salut de son homme? Mais non, j'ai besoin d'un chauffeur. Vous voyez comment on peut se tromper. Et un chrétien, il ne prie pas pour des avantages. Tiens, si j'aime mon patron, est-ce que je ne vais pas avoir des avantages? Non, on aime tous les gens avec qui l'on travaille. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas chanter « Son message rend heureux » parce qu'ils ne sont pas sérieux avec ces choses. La parabole du bon samaritain, c'est Jésus qui l'adresse. Il explique que aimer, c'est exercer la miséricorde. Je dois exercer la miséricorde. Je dois apprendre à faire quelque chose envers mon prochain. Comment puis-je exercer la miséricorde? Comment puis-je aider quelqu'un? Comment puis-je le dépanner? Je parlais tout à l'heure d'une pièce qu'on peut donner à un clochard qui fait la manche. Bon, est-ce qu'on peut donner une pièce à tous les clochards de Toulouse? Ben non! Mais on peut se poser la question... Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, moi? Ça vous interpelle pas, ça? Comment je dois aimer mon prochain? Un pasteur. Un pasteur, qu'est-ce que c'est pour un pasteur, aimer son prochain? Comment un pasteur annonce la vérité? Tiens donc. C'est des questions qu'on a eu déjà débattues avec les pasteurs. La vérité, on peut la présenter de plusieurs façons, oui ou non? Ah oui. La vérité, on peut la présenter avec beaucoup de dureté. Oui ou non? Est-ce qu'un pasteur doit être dur? Moi, je pense que non. Ferme, peut-être. Vous allez me dire, oh, tu commences à jouer avec les mots. Je pense qu'il y a de la sévérité dans la parole de Dieu. Il peut y avoir de la fermeté, mais jamais de la dureté. Et un pasteur qui est dur, je parle de dureté, attention, il finira par avoir une église dure. Et des gens qui détesteront la parole. Je crois qu'on doit aimer la parole. Et quand on entend un commandement, même si c'est dit avec sévérité, ou avec tendresse, ou les deux, c'est le mieux encore, que l'on puisse dire oui. Si Jésus, tu dis que c'est le deuxième commandement et que tout dépend de ça, eh bien Seigneur, je vais m'appliquer. Je suis pasteur, je vais apprendre à prêcher avec sévérité, mais avec amour. Je suis animateur de l'école du dimanche. Comment j'instruis les enfants? C'est une question, ça. Peut-être que vous avez 20 gosses. Ça s'est arrivé dans des classes qui est combien d'enfants, Isabelle? 17, 20 gosses. C'est pas une petite église d'avoir 20 gosses dans une église? 20 gosses dans une classe? Comment j'instruis les enfants? Comment je les aime? Je suis chef de famille. Tiens donc, oui, ça y est, je suis chef de famille, j'ai des enfants. Comment j'apporte l'évangile à mes enfants? Si Dieu dit, si Jésus dit que ce commandement, c'est le plus important, c'est parce que c'est important. On va voir de plus en plus de gens qui souffrent. Vous croyez que tout va aller en s'arrangeant? Tout va aller en s'appauvrissant. Alors Seigneur, donne-moi de l'amour parce que je ne comprends pas la souffrance des gens. Vous comprenez, vous, la souffrance des gens? Quand vous discutez avec quelqu'un, des fois, vous vous êtes étonné. L'autre jour, j'étais dans un magasin, je discutais avec une femme, et on parlait, tout ça, puis comme moi j'aime bien discuter, elle paraissait heureuse, tout ça. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, voilà, monsieur Gaud. Elle ne me connaît pas monsieur, elle me dit, monsieur, mon mari vient de se suicider. Il a attendu la retraite, écoutez bien, il a attendu la retraite toute sa vie, et au bout de 6 mois, quand il a pris la retraite, il s'ennuyait. Je l'ai retrouvé pendu dans le garage. Je suis désemparé. Apprendre à aimer les gens qui sont dans la souffrance. C'est terrible, ces choses. Oui ou non? Et on ne comprendra pas ce que les gens souffrent. Des fois, il faut passer beaucoup de temps pour comprendre la souffrance de quelqu'un. On ne sait pas les épreuves qu'ils sont en train de traverser. Vous avez vu les amis de Job, comment ils ont été doués pour le fortifier, hein? Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à aimer. J'ai décidé d'être chrétien. Parce que je veux te suivre. C'est ça, être chrétien. Il y a des gens qui se demandent des fois, quand ils prennent le baptême, pourquoi ils veulent être chrétien. Peut-être pour ne pas aller en enfer. Quoique c'est déjà, ça tient debout quand même aussi, non? Est-ce que c'est que ça, être chrétien? Bon, personne n'a envie d'aller en enfer quand même. On ne peut pas juger quelqu'un qui dit, moi je me suis donné à Jésus, je ne veux pas aller en enfer. Moi je vous avoue que rien que pour ça, je marcherai avec Dieu. Je n'ai pas envie d'y aller. Mais je pense qu'on a donné notre cœur à Jésus parce qu'on veut lui ressembler. Et même si c'est difficile, même s'il y a des efforts à faire, même si on ne comprend pas tout, etc., Seigneur, je réclame ton secours. Je veux donner ce témoignage que j'ai aimé dans mon foyer, j'ai aimé ma femme, j'ai aimé mes enfants, j'ai aimé mes voisins, j'ai aimé ces gens-là qui sont difficiles, ces gens en difficulté, s'il y a des gens qui se disputent au travail. Je me souviens, je vous donne ce témoignage parce que j'y ai repensé tout à l'heure en préparant la prédication. Vous savez, quand je travaillais à la SPI, à la fin de l'année, on avait une prime, une belle prime, et on pouvait monter d'échelon. Et on travaillait dans une rue, et on changeait l'électricité, ça passait des câbles, on torsadait. Et il y avait le gars, il était sur le poteau, et moi j'étais sur le toit, qui alimentait toute une rue, et il fallait marquer les câbles, et le neutre, la phase 1, etc. Et puis, c'est le neutre, parce qu'il y avait un arbre, alors on bougeait le fil, clac, clac, et on marquait, on codait. Et quand on a branché, et qu'on a mis le courant, toutes les maisons, une trentaine de maisons, tout a tourné à l'envers, tout a cassé. Toutes les télés, tous les congélateurs, tous les frigos, tout a grillé. Le patron, il est venu et tout. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Qui c'est qui a marqué les câbles? J'ai dit, c'est moi. Est-ce que tu as fait comme il faut? J'ai dit, oui. Et l'autre, il a dit, non, c'est Gérard, il s'est trompé. Et j'ai dit, non, tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Alors, il faut que vous décidiez qui c'est qui a, parce que c'était la prime, c'était l'échelon. J'ai dit, écoutez, moi, si j'avais un doute, je vous le dirais, mais je sais que moi, je ne me suis pas trompé. Et puis, quand je suis parti, on a fait un repas. Je vous dis ça parce que j'y pensais tout à l'heure. Quand on est parti, on a fait un repas. Et il avait 45 ans, 50 ans à l'époque. C'était le plus ancien de la boîte et tout. Et on mangeait, on discutait. Puis tout d'un coup, il se met à pleurer. C'était le dernier jour où on pensait ça. Tout d'un coup, il se met à pleurer. Et il dit, j'ai quelque chose à dire. Tout le monde s'est arrêté. Et il a dit, je voudrais dire quelque chose. Gérard, c'est un véritable chrétien. T'es un vrai chrétien. Et il a expliqué 2 ou 3 trucs qui s'étaient passés.
Et moi, pour moi, c'était ma récompense. Franchement, c'était ma récompense. Parce que j'avais ça m'était égal, la prime. Bon, c'est sûr qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas craché la soupe. Hein. L'échelon, j'avais dit, ça m'était égal. J'ai dit, je sais que je vais faire autre chose. Je savais que j'allais être pasteur. Mais je crois. Et cet homme, on a gardé le contact. On a été manger chez lui. On a pu lui parler, on a pu lui donner une Bible. Pourtant, il avait été d'une méchanceté, vraiment méchant. Et il y a des gens, malgré leur méchanceté, on s'attache à eux. Et c'est vraiment par quelqu'un, je ne sais pas s'il est vivant, je ne sais pas s'il est toujours vivant. Mais pourquoi je dis ça? Parce que c'est difficile d'aimer. Mais on peut demander au Seigneur, donne-moi d'aimer, apprends-moi à aimer. Est-ce qu'on peut terminer la réunion à lui dire, mais Seigneur, apprends-moi à aimer. Est-ce que c'est une prière qui peut plaire à Dieu? Vous ne savez pas demain qui c'est que vous allez côtoyer. Quelqu'un de difficile, d'exigeant, de pénible, d'agréable. Il y a des gens qui sont aimables, mais il y a des gens qui ne le sont pas. Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. On ferme les yeux, on termine en demandant à Jésus qu'il nous donne de vivre ce commandement. Il ne faut pas que ça soit de la théologie. Il ne faut pas que ça soit de l'enseignement systématique. Il faut que je dise, oui, je veux sortir de ce lieu de culte. J'ai décidé d'aimer. Dans l'église, dans ma famille, demain, les voisins, je vais aimer. Et Dieu va vous aider. Notre Père, oui, lorsque nous t'avons donné notre cœur, c'est parce que nous voulions, oui, bien sûr, éviter l'enfer, mais nous voulions aussi te ressembler. Tu nous as donné un exemple. Tu nous as montré ton amour. Tu as manifesté ton amour. Tu continues à le manifester. Et tu nous dis dans ta parole que ton amour est éternel. Nous le savons, Seigneur. Nous le savons parce que nous l'avons vu dans la vie des autres. Nous avons vu comment tu as fait ce jour où tu t'es approché des apôtres. Comment tu as réglé le problème de Pierre. Nous l'avons vu dans nos propres vies. Et nous voulons encore le voir. Ce soir, demain. Apprendre à aimer vraiment. Tu vois tous les gens, Seigneur, que tu mettras sur notre chemin jusqu'à notre dernier souffle. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'apprendre à aimer. D'avoir cet amour qui ne juge pas, cet amour qui pardonne, cet amour qui est serviable, cet amour qui est désintéressé. Seigneur, s'il te plaît, tu savais qu'il viendrait ce soir. Et nous te demandons ensemble, Seigneur, de nous accorder cette grâce dans l'Église, de devenir des gens qui aiment. Tu vois, Seigneur, oui, je sais que tu nous mettras à l'épreuve. Peut-être même déjà dans notre propre famille, dans l'église, demain au travail ou auprès des voisins. Donne-nous cette grâce que de nos cœurs, de nos paroles, de nos attitudes sortent ta bienveillance et ta bonté. Merci pour ton aide, Seigneur. Nous le savons que si quelqu'un manque de quoi que ce soit, il peut te le demander. Tu donnes sans reproche. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide vraiment à ce que cet amour se développe. Jésus l'a dit, c'est à l'amour, ou non, c'est à la doctrine, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? C'est à la dénomination, comment il a dit? Aidez-moi. C'est à la dénomination que vous aurez. Non, c'est la théologie. C'est à la théologie, non? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Que le monde saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. On se lève et on termine en demandant à Dieu sa grâce, en demandant à Dieu qu'il nous garde et que ce que nous avons partagé ce soir, nous le méditions, mes frères et sœurs. Oui, son message rend heureux.